Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Bei uns ist zurzeit Boualem Sansal auf Lesereise, einer der ganz großen französischsprachigen Autoren unserer Zeit. Boualem Sansal lebt in Algerien. Er lebt immer noch dort, muss man sagen, obwohl er vom algerischen Regime heftig angefeindet wurde. 2011 wurde Boualem Sansal mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Und jetzt stellt er bei uns seinen neuen Roman vor, der heißt »Der Zug nach Erlingen« oder »Die Verwandlung Gottes«. Ich habe vor der Sendung mit dem Autor gesprochen und ihn zuerst gefragt, ihr Roman spielt zum Teil in Deutschland, in dem fiktiven Ort namens Erlangen, der taucht schon im Titel auf. Wie ist es denn gekommen, dass Sie einen Roman in Deutschland angesiedelt haben?
Ah, c'est compliqué. Je me posais la question de des peurs qui s'installent sur le monde. Voilà. En Europe, c'est un peu des peurs inspirées par le terrorisme, l'islamisme, la précarité économique, les migrants, etc. Et je me suis dit, c'est très intéressant d'examiner ce problème sous deux angles. Du côté français, où la question se pose d'une certaine manière, et du côté allemand, où ça se pose d'une manière différente. Voilà pourquoi mon roman est divisé en deux parties. Une partie qui se passe en France. Ça se passe dans les banlieues de la Seine-Saint-Denis. Donc, c'est des endroits occupés surtout par des migrants, des émigrés, où règne une très grande précarité, où peut-être on pense que le terrorisme vient de là, etc. Et en Allemagne, l'Allemagne c'est autre chose. L'Allemagne c'est quand même un pays un pays puissant, un pays organisé, un pays riche, et donc j'avais besoin de situer mon histoire dans une petite ville de province, très, très bourgeoise, très riche, où les gens sont raisonnables et puis qui voient un jour arriver cette menace. On ne sait pas d'où elle vient de l'Est, elle vient du Sud, on ne sait pas la qualifier. Et j'observe ce qui se passe chez les gens, qui au début ont peur, puis c'est la panique, et puis ensuite ils se posent des questions, etc.
Und ist das diese Konstellation eine Gesellschaft, die von einer übermächtigen Angst erfasst wird und die Frage, was dann passiert mit den Menschen und vor allem auch mit den sozialen Verhältnissen, in denen sie leben, war das das Thema, was Sie vor allem packen wollten mit diesem Roman, eine Gesellschaft in Angst?
Oui, absolument. Tous les pays du monde vivent dans cette peur aujourd'hui, hein? Donc c'est la peur de l'islamisme, la peur du communisme, la peur du terrorisme, la peur de la crise économique, la peur de la mondialisation, et ainsi de suite. Alors, c'est la grande question de l'humanité aujourd'hui. Et chaque peuple, chaque pays répond à cela à sa manière. Dans les pays, par exemple, d'Afrique, la peur de la misère et tout ça fait quoi? Ben, ça pousse les gens à partir, prendre la route et aller chercher des pays où ils pensent qu'ils vivraient heureux et en sécurité, et ainsi de suite. Dans certains pays, on appelle, par exemple, à l'expulsion des étrangers. On dit que la peur vient de ça. Et certains pensent que la peur vient des guerres qui se déroulent en ce moment en Syrie, en Irak. On dit qu'il faut aller faire la paix, il faut faire quelque chose, il faut agir, il faut aller bombarder. Voilà, face à la peur, on a des réactions différentes d'un pays à l'autre et ça crée un problème parce qu'il faudrait plutôt s'organiser à l'échelle mondiale pour résoudre ces questions-là.
Und das halten Sie für vorstellbar, eine weltweite Lösung für diese ganz verschiedenen Ängste, die Sie gerade genannt haben?
En tout cas, l'humanité y a toujours cru. C'est pour ça qu'après la Première Guerre mondiale, on a créé l'ASEAN, la Société des Nations, parce qu'on s'est dit, bon, un peuple sait résoudre ses problèmes internes, mais il ne sait pas résoudre les problèmes qui viennent de l'extérieur. Et donc, il faut qu'on mette quelque chose en commun. On a créé la Société des Nations, ça a échoué. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, on a dit qu'il faut aller plus loin, il faut créer un droit international. Et donc on a créé l'ONU. Et puis on dit bon, l'ONU règle des problèmes politiques, des machins. Et puis ensuite on a créé l'OTAN. Et puis, donc si, il y a comme, parce qu'il y a des problèmes nationaux qu'on peut résoudre à l'échelle de son pays, par son gouvernement ou par les citoyens eux-mêmes. Et puis il y a des problèmes qui sont supranationaux, qui dépassent le cadre national. Et il faut travailler ensemble. Comme, la question de l'islamisme, par exemple, et le terrorisme islamiste plutôt, tant qu'il frappait un pays comme, je sais pas, l'Afghanistan ou l'Algérie, ben c'est le problème des Afghans et des Algériens. Mais maintenant qu'il touche le monde entier, comment on fait ? Un terroriste, il peut commettre des attentats à Paris alors qu'il vit à, Damas, il vit à Khartoum. Donc ça devient international. On a besoin de travailler ensemble.
Weil Sie das Thema Islamismus gerade ansprechen, Ihr Roman Der Zug nach Erlingen, der neue Roman, der ist der letzte Teil einer Trilogie, in der Sie sich mit dem Thema Islamismus auseinandergesetzt haben. Warum ist das überhaupt für Sie zu so einem vordringlichen Thema geworden, dass Sie eine ganze Reihe von Romanen dazu schreiben wollten?
Vous savez, il y a 50 ans ou plus, le problème que l'on traitait, c'était le communisme. Le communisme envahissait le monde et est parti du RSS. Il a conquis l'Europe de centrale et puis il est passé à l'Europe de l'Ouest et puis il est arrivé aux États-Unis. Donc la grande peur, c'était ça. Alors tout le monde écrivait. Regardez cette affaire-là, et on a fait des romans, des films, des colloques, beaucoup de choses. Et puis on a créé même des institutions aussi pour étudier ça de manière plus précise et pour lutter contre ça. L'OTAN, par exemple, etc. etc. Bon, aujourd'hui, les menaces sont... l'islamisme, le terrorisme islamiste est la nouvelle menace, mais ce n'est pas la seule. Il y a la mondialisation, dans beaucoup de pays, elle est vécue comme une menace. Le réchauffement de la planète qui crée des mouvements de population très importants, c'est une grande menace. Voilà, donc aujourd'hui on a une nouvelle palette de menaces. Et alors pourquoi je travaille sur cette menace spécialement ? Ben parce que mon pays a été détruit par le terrorisme. Parce qu'on a vécu cette chose-là. On a vu arriver la menace. Au début, on n'a pas fait attention. On s'est dit, c'est pas grave, c'est une petite menace. Et puis cette menace a grandi, puis c'est devenu une guerre. Et puis ça fait des milliers, des milliers, des milliers de morts. Et encore aujourd'hui, mon pays n'est pas guéri. Puis on l'a vu, d'autres pays aussi subir des attentats partout. Voilà, donc c'est dans ce sens-là que... je me suis intéressé à ce sujet et j'ai vu que je ne peux pas faire ça dans un seul livre, donc j'en ai fait trois.
In Ihrem Heimatland in Algerien gibt es ja zurzeit große Unruhen. Da sind Hunderttausende Demonstranten auf den Straßen, protestieren gegen das Regime in Algerien. Welche Rolle spielt denn dabei heute das Problem des Islamismus?
Pas grand-chose. Nos islamistes sont en observation, parce qu'ils ont vu que la population manifestait sur des bases qui ne sont pas les siennes. Mais les jeunes manifestent pour demander la démocratie, pour demander la liberté, pour demander la justice, voilà. Et ça, c'est pas le thème des islamistes. Donc, ils attendent que le bon moment pour pousser peut-être les Algériens à dire « Bon, très bien, les problèmes sont ceci, ben, la solution, c'est l'islam. » Donc, mais pour le moment, les Algériens ne sont pas sur cette ligne. Ils pensent que la solution au problème de l'Algérie d'aujourd'hui, c'est la démocratie, c'est la République, c'est l'économie, c'est l'égalité homme-femme, c'est voilà, des choses modernes. Et donc les islamistes attendent, ils observent et ils attendent.
Und wie sehen Sie die Chancen der Protestierenden jetzt in Algerien, tatsächlich Veränderungen zu erreichen in ihrem Land?
Pour le pouvoir, la solution, c'est d'aller à l'élection présidentielle. Donc, elle est programmée le 12 décembre. Il y aura donc une élection présidentielle avec 5 candidats qui sont les candidats de l'armée. Donc, voilà. Donc, on sait que le futur président sera l'homme de l'armée, l'homme du chef d'état-major de l'armée. La population ne veut pas de cette solution. La population veut une période de transition. Elle veut que le système parte, que les généraux qui dirigent l'Algérie aujourd'hui démissionnent et qu'il y ait une période de transition avec un gouvernement de transition qui va expédier les affaires courantes, le temps de débattre de ce qu'on veut en Algérie, de créer une constituante pour faire une nouvelle constitution, pour... que les partis fassent leur programme et mènent des campagnes, voilà, que ce soit une solution véritablement démocratique, qui vienne du peuple, qui ne vient pas du pouvoir. Et donc, c'est l'épreuve de force. L'armée reste sur sa feuille de route, sur son programme, et la population reste sur son programme. Alors, qu'est-ce qui va se passer le 12 décembre ? Le peuple ne veut pas que l'élection se déroule, donc ils feront tout pour empêcher cette élection. Et l'armée veut que l'élection se déroule, et donc qu'est-ce qu'elle peut faire ? Elle va peut-être soit tirer sur les gens, soit déclarer que ben, le président a été élu. Voilà, il y a trois personnes qui ont voté, mais c'est valable, il est président de la République. Voilà, on va vers ça.
Machen Sie sich Sorgen, dass die Proteste in Algerien, dieser Aufstand der Bürger, auch so enden könnte wie in Syrien zum Beispiel oder in Libyen, in einer Explosion der Gewalt mit tausenden Opfern?
C'est une hypothèse. Nous faisons évidemment cette hypothèse parce qu'on connaît la réalité du pays, puis on voit ce qui s'est passé ailleurs. Il y a les scénarios catastrophes et puis il y a des scénarios qui pourraient être qui sont plus sympathiques, comme par exemple au Soudan, la population et l'armée ont fait un deal, ont trouvé un arrangement, donc ils ont décrété une période de transition de 3 années avec une instance qui gouverne, qui comprend moitié de militaires et moitié civils. C'est très intéressant comme hypothèse, parce qu'on ne peut pas casser l'armée, on ne peut pas chasser l'armée et les militaires. On a besoin d'une armée. Donc il faut négocier avec eux. Il y a le scénario syrien, c'est peut-être les islamistes qui vont, ou une faction de l'armée violente qui va pousser à l'affrontement. Et si ça démarre, ça ne s'arrête pas, parce qu'on a déjà fait une guerre civile et on peut très facilement faire une deuxième après. Alors on espère quand même que la raison va l'emporter et que peut-être dans l'armée, il y a des gens raisonnables, des officiers raisonnables qui pourraient en ce moment écarter l'état-major. Parce que le chef d'état-major, moi pour moi, est vraiment un malade, c'est un fou. Il est prêt à tuer la moitié de la population pour garder le pouvoir et je pense peut-être que l'armée pourrait le chasser. Et en ce moment, on irait vers un scénario à la soudanaise ou à la tunisienne qui serait acceptable, je pense, par tout le monde.
Wie geht es Ihnen denn selbst in dieser Situation? Sie haben ja lange ausgehalten, wenn ich das mal so sagen darf, in Algerien, trotz vieler Angriffe gegen Sie, obwohl Ihre Bücher dort zensiert wurden, totgeschwiegen wurden. Was hält Sie in Algerien fest?
Parce que c'est mon pays et que je fais partie de ces Algériens qui veulent le bien pour leur pays. Et c'est pas en quittant son pays qu'on peut l'aider à régler ses problèmes. Moi, je suis toujours très triste de voir les Algériens partir, surtout les intellectuels. L'Algérie a besoin de ces intellectuels, de ces cadres, de ces ingénieurs, de ces médecins, de ces professeurs, de ces artistes pour construire un pays. La démocratie, ça ne tombe pas du ciel. C'est un travail que font les gens. Et si les gens qui peuvent faire la démocratie partent, ben c'est céder la place aux islamistes et aux militaires qui sont des gens corrompus, qui ne s'intéressent pas du tout au peuple et au pays.
Wie geht es denn auch anderen Autorinnen und Autoren in diesem Land? Wie eingeschränkt sind sie dabei, ihre Gedanken, ihre Bücher zu publizieren in Algerien?
Non, il n'y a pas vraiment beaucoup de menaces. Le pouvoir algérien est quand même devenu intelligent. Il y a 20 ans, pour un petit mot de rien du tout, on mettait les gens en prison pour 20 ans ou on les assassinait purement et simplement. Non, aujourd'hui, le pouvoir laisse beaucoup de choses sont publiées. Et dans la mesure où vous n'attaquez pas... il ne faut pas toucher au président, parce qu'il est protégé par des lois. Il ne faut pas toucher à l'islam. Il ne faut pas dénigrer la révolution algérienne, la guerre de libération. Voilà. En dehors de ces trois sujets, vous pouvez parler de ce que vous voulez, dans les limites de ce que permet la culture arabo-islamique. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez écrire des romans d'amour. Mais vous ne pouvez pas aussi, je ne sais pas, par exemple, parler d'homosexualité, parler de ces choses-là. il faut se situer dans un cadre arabo-islamique. Et là, dans ce cadre, vous êtes libre. Moi, je fais de la politique, donc c'est des sujets que j'aborde de manière toujours un peu comme ça, fantasmée. Je désigne personne en particulier, donc mes livres circulent en Algérie assez librement. À certains temps, ils étaient interdits, mais maintenant ça va, mes livres circulent.
Jetzt hat sich die Gesellschaft in Algerien ja von der Angst befreit, könnte man sagen. Also zumindest bei den Menschen, die auf die Straßen gehen, die protestieren. In Ihrem Roman, Sie haben es uns erzählt, zeichnen Sie eine Gesellschaft in Angst. Wie geht denn diese Gesellschaft in Ihrem Roman, die Sie eben nach Deutschland verlegt haben oder angesiedelt haben, wie geht die um mit dieser Angst? Gibt es da auch eine Form der Befreiung?
Juste une pression pour l'Algérie. Hein. Donc les gens sont libres. Ils manifestent le vendredi entre, on va dire, 15h et 17h. Donc là, ils sont libres parce qu'ils sont 20 millions de gens dans les rues. Mais dans la semaine, personne ne parle, personne ne bouge. La police est là. Pour le moindre mot, on peut être arrêté. C'est ça la réalité. Hein. Donc une liberté conditionnelle pendant 3 heures dans la semaine. Et le mardi, les étudiants manifestent donc librement. Mais voilà, dans mes romans, et notamment donc à Erlingen, les gens, la peur a une histoire. Au début, on ne sait pas nommer les choses. Les gens ont peur, ils ne savent pas trop de quoi. Ils n'arrivent même pas à nommer l'ennemi. On ne sait pas, c'est comme dans le désert des Tartares de Dino Buzzati, on surveille un territoire menacé par qui, on ne sait pas. Et puis, petit à petit, les gens commencent à comprendre. Ils analysent, ils discutent. Et puis, petit à petit, ils commencent à mettre des noms sur des choses. L'ennemi commence à dire, voilà, c'est des étrangers, c'est l'islamiste, c'est ceci, c'est cela. Et l'étape suivante, c'est la résistance. En l'occurrence, dans mon roman, à Erlingen, Ute von Ebert, qui est l'héroïne, cette femme... cette baronne très riche et qui a des moyens, eh ben, elle essaye d'organiser la résistance. Et elle dit aux gens, n'attendez pas le train, il faut vous défendre, défendons notre ville. Mais les gens ont peur, évidemment, les gens qui ont des enfants, qui n'ont pas de courage, ils veulent partir. Mais elle leur dit, restons et battons-nous. Et elle fait plein de choses, puisqu'elle leur... Elle essaie de mobiliser les gens autour d'elle, mais bon, la peur est trop grande et les gens veulent absolument partir.
In dem Roman Der Zug nach Erlingen oder Die Verwandlung Gottes, der neue Roman von Boualem Sansal, der wurde aus dem Französischen übersetzt von Vincent von Wroblewski und ist bei uns im Merlin Verlag erschienen. Monsieur Sansal, merci beaucoup.
Merci à vous.
Und vielen Dank
merci beaucoup.
Und vielen Dank an Dirk Fuhrich, der unser Gespräch hier übersetzt hat.